Vous êtes bien sur la boîte vocale des cinéphiles en confinement. Nous sommes actuellement en train de regarder un film. Alors n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous conseiller le suivant.
Allô, cinéphile confiné. Donc je ne suis pas au téléphone, mais je suis en dehors de chez moi. Et pour un peu faire autrement que les autres, plutôt que de laisser un message sur un répondeur depuis un appartement qu'on a fait mille fois de tour, en fait je me suis échappée. Pendant ce confinement, je me suis échappée une fois, grâce à mon ami Gaël, dans un endroit qui est pourtant pas très loin de chez moi, qui est bien dans le périmètre des 1 km, qui existe depuis 4 ans et demi, et dont j'étais passée plusieurs fois devant, que j'avais vu l'évolution, j'avais vu que la petite épicerie s'était transformée en une cave à vin, mais ne buvant pas ou n'autorisant pas forcément à acheter du vin, à fréquenter les caves, j'étais jamais rentrée. Et donc Gaël m'emmène rue Jean-Pierre Timbaud, chez Mireille, et donc d'ailleurs maintenant ça s'appellera pas chez Mireille, mais ça s'appelle Délicatessen, donc la cave Délicatessen. Et à côté, il y a un petit estaminet où on peut boire des coups aussi. La cave est restée ouverte pendant le confinement, l'estaminet est fermé, et on espère qu'il rouvrira bientôt. Et c'était une épiphanie de rencontrer Mireille, de boire un verre de vin, de voir du vin, de voir des bouteilles, et surtout, il est évidemment à faire de cinéma. Parce que Mireille, elle aime regarder des films, comme nous tous, mais sur un support. Et j'ai trouvé que entre le support qu'elle aimait collecter, regarder, acquérir, il y avait aussi, on pouvait faire le lien avec une bouteille de vin, avec un support, un contenant et une image. Mireille, elle regarde des films en VHS. Et donc, je me suis dit que c'était quand même un sujet de cinéphilie. Et voilà, comme c'était la commande qui nous était faite de parler de cinéphilie, de confinement, moi je vous ai dévoilé mon périple jusqu'à Mireille, et là maintenant je suis donc dans la même pièce qu'elle. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Et j'ai amené une VHS à Mireille, voilà. Je vais lui acheter une bouteille de vin, mais je lui ai amené une VHS, pas achetée. C'est une VHS qui m'avait été donnée il y a un petit moment déjà, que j'ai regardée. Tiens Mireille.
Merci beaucoup. J'ai peur, évidemment. Ah oui, d'accord.
Est-ce que tu peux te décrire parce qu'on est à la radio?
Oui, bien sûr. Donc le film, c'est Jack l'Éventreur avec Klaus Kinski. C'est un film que j'ai pas vu. Je sais même pas qui est le réalisateur, pour vous dire que je ne suis pas du tout cinéphile, mais j'aime le cinéma. Et tu sais qui est le...
Absolument pas, c'est voilà. Pas du tout l'intérêt.
En tout cas, ça fait peur. Il a un gros poignard, plus grand que son visage, dans la tête, avec du sang au bout de son poignard. Et puis il y a, je sais pas si c'est la nuit, ou des sirènes, ou en tout cas deux charmantes femmes. Une
en mauvaise posture.
Voilà, exactement. Et puis une qui court, j'imagine, pour échapper... Ah, Jack.
Donc c'est un Kinski très séducteur, très fiévreux. Moi j'ai un souvenir de ça où il est un peu en cire comme ça.
D'accord.
Il est parfait.
Bon, pour le coup, merci beaucoup.
Je t'en prie.
Ça sera après le confinement. Je vais peut-être pas faire Jack l'Éventreur en plein milieu du confinement. Mais merci, merci, merci.
Ouais, je t'en prie. Et je ne vais pas te demander d'où vient cette passion pour les VHS, mais est-ce qu'en fait tu t'es jamais arrêtée? Je ne dis pas par ça que t'es âgée, hein, mais est-ce que tu as toujours regardé les films en VHS? Et finalement tu ne te serais pas arrêtée, ou est-ce que ça a redémarré parce que plus personne ne le faisait?
D'une manière générale, ce n'est pas que les VHS, je crois que j'ai que des yaourtières, des scies pour couper le rôti, des années 70 on va dire, je suis assez sur les appareils électroménagers. Je m'en sers pas forcément, mais je m'en suis servie aussi. Enfin voilà, mais d'une manière générale, c'est les années 70-80 sur les innovations pour eux, c'est quelque chose qui me fascine aussi sur le mobilier. Enfin, je pense comme beaucoup de personnes, donc les VHS. Et puis après, je m'y suis particulièrement attachée parce que, je récupérais des VHS, c'est-à-dire je les achetais pas, mais c'était des passionnés de cinéma qui lâchaient les VHS. Parce qu'ils avaient d'autres supports et c'était vraiment des cinéphiles pour le coup, donc les VHS prenaient énormément de place. Donc j'ai eu la chance de récupérer des VHS. La plupart des VHS sont enregistrés à la télévision, Donc c'est pas comme Jack l'Éventreur où c'est une VHS vendue dans les commerces, on va dire.
Oui.
La plupart, donc on a la publicité avant. Comme on savait pas à quelle heure commençait vraiment le film, tout le monde sécurisait 10 minutes avant, 20 minutes après. Donc il y a le film, heureusement, et souvent en version originale. Et puis il y a les publicités, les fins de la formation, et puis après. Là, je suis tombée sur le Queen Kelly, sur Joseph von Stein. Mais derrière, il y avait du patinage artistique, par exemple. Et voilà, ça rappelle aussi beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'est souvent des VHS qui ont été enregistrées par des personnes. Et c'est des personnes que j'aime beaucoup. Donc, en fait, le lien se fait aussi parce que j'imagine ces personnes avoir fait l'effort d'enregistrer. Voilà, donc c'est...
De la démarche de s'approprier un film, de l'enregistrer.
Exactement, voilà. Ouais.
Et c'est l'habillage qui t'intéresse aussi sur une VHS, ça c'est intéressant.
Après, ce qui est assez impressionnant, c'est les VHS que j'ai récupérées, il y a marqué l'année, le nom du film, le nom du réalisateur, et il y a toujours l'affiche Télérama sur les trois personnes, les trois principales personnes qui ont, et ça alors là, qui se connaissent absolument pas du tout, et il y a toujours l'avis de Télérama. Donc en fait, et comme avec ma sœur, on attendait les téléramas le mercredi avec impatience. Ça rappelle aussi. Donc la plupart des films sont en lien aussi de quasi les avoir vus, ou pas tous, mais. Enfin, pas du tout tous d'ailleurs, mais comme ça.
Et est-ce que. Tu dis que t'aimes bien les trucs des années 60-70, mais est-ce que. Moi, je cherche des espèces de passerelles avec le vin, mais est-ce que. Principalement, tu as du vin naturel dans ta cave.
Que ça.
T'as que ça.
Ouais,
que ça. Et le vin naturel, alors on en fait un peu l'apanage maintenant, mais ça existe depuis longtemps.
Ça existe depuis la nuit des temps,
c'est ça.
Ça c'est sûr. Après, quelques vignerons, depuis les années 60-70, ils font ce travail-là.
Comme plutôt à couper le rôti.
Exactement. Et puis là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes vignerons reprennent la philosophie, en fait, c'est pareil, c'est une manière de vivre, pas de produits chimiques, pas de suivre les raisins, accompagner au maximum. Mais au tout début, on s'est un peu moqué de moi parce qu'il y a un réalisateur très peu connu qui s'appelle François Truffaut, que j'aime beaucoup. Et son dernier film s'appelle Vivement Dimanche, et je voulais appeler la cave Vivement Dimanche. J'ai pas la télé, j'ai jamais eu la télé. Et deux, trois personnes me disent « Mais tu sais que c'est une émission le dimanche après-midi de Michel Drucker ?» Je fais « Ah non !» Cette émission est sans doute merveilleuse, mais malheureusement, je ne pourrais pas appeler la cave Vivement Dimanche puisque c'est une émission de télé et ça paraîtrait un petit peu improbable. Donc ça s'appelle comme ça. Et l'autre idée de la cave que j'avais au tout départ, parce que en fait, les vignerons, on les appelle des auteurs. C'est-à-dire que nous, c'est pas la marque, c'est-à-dire c'est pas l'appellation qui sera important. C'est les cépages, les terroirs aussi, mais c'est surtout le vigneron. C'est vraiment lui qui sera mis en avant. Comme le cinéma maintenant, c'est pareil, le cinéma dans les années 40, 50, même avant, le réalisateur n'était pas du tout en avant, c'était le producteur, je pense, etc. Donc c'est le vigneron qui est mis en avant. Et au tout début, je voulais faire des liens avec un vin, un film. Et j'en avais parlé à Gaëlle d'ailleurs, et elle me dit, ah oui, mais c'est des films...
Comment tu aurais fait ça pour présenter le truc?
Par exemple, s'il y a un...
Des petits écrans?
Des petites fiches en disant si ce vin est vraiment sur le fruit, très gourmand et qu'il amène quelque chose de bucolique, et ben on va dire un Renoir par exemple. Mais tout le monde ne connaît pas Renoir, et puis après je disais mais tout le monde ne connaît pas ce vigneron là non plus. Mais c'est vrai que ça demandait énormément de concentration pour expliquer et le vin, qui est déjà un grand voyage pour beaucoup de personnes, de se focaliser sur un vigneron, et après d'expliquer le cinéma aussi. Donc voilà, j'ai simplifié.
Mais tu sais, je pense que ça se ressent, parce que moi je suis toujours intimidée, je connais rien au vin. Je connais un peu ma carte de France, donc j'ai dit « Ah tiens, ça vient du Jura, je connais bien » et tout ça. Pupillin, ça m'a...
Ouais.
Donc je fonctionnerais plutôt par les noms d'endroits d'où viennent les vins. Mais je suis toujours très intimidée, parce que pour moi, j'aime le vin de soif, j'aime un vin... ça dépend tellement de ce que tu manges avant, après, de comment tu es, etc. Mmh. Après, tout ce que tu dis sur le vin naturel, moi, je le comprends complètement. A priori, quelqu'un qui fait attention à son raisin, qui soit pas trop pité de trucs et qui a un temps pour faire du vin. Mais en même temps, enfin, l'idée de... Je pense qu'il y avait une facilité ou un truc comme un lien vers le cinéma qui, moi, où je me suis sentie très à l'aise dans ta cave, en fait. Mmh. Et puis, il y a une sorte de décomplexé aussi. Enfin, tu parles de vin d'auteur et en fait, je pense que ces personnes accordent un peu comme ce qui se passe sur la VHS avant et après, accordent une importance à l'étiquette ou vont rigoler de leur propre vin.
Si on peut comparer, ouais. On peut dire qu'ils font un film par an, les vignerons.
Ouais.
Voilà, eux, ils ont le temps. Enfin, un film, c'est différent puisqu'on va décider, on fait telle année ou dans tant de mois et puis il y a une équipe, etc. Mais eux, ils ont une année pour rendre le meilleur, mais c'est comme s'ils font un film par an, ouais. Et le film sera différent. J'essaye vraiment d'expliquer quand on se souvient pas du nom du vigneron ou de la touche, je dis mais je sais pas, vous allez au cinéma, vous voyez un film, vous notez le nom d'un acteur qui vous a plu ou de la musique ou du réalisateur ou du décorateur, et bien faites la même chose, faites le petit même effort pour le vin. Parce que ça sera vraiment gagné pour vous, parce qu'on va ranger après dans des petites cases la région, voilà, je fais... Mais bon, des fois, on me regarde avec des grands yeux en disant « Ah oui, quand même !» Mais il y aurait un lien comme ça, parce qu'on dit aussi « J'ai beaucoup aimé ce vin, j'aimerais le même, mais pas le même vigneron. » Et c'est très compliqué, parce que si on fait un comparatif avec le cinéma, on dit « J'ai beaucoup aimé ce film, je voudrais le même film, mais pas pareil. »
C'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre ce qu'on fait porter au vin.
Oui.
Ouais, c'est étrange.
Musique, voilà,
ouais.
Enfin, voilà, dès que ça concerne.
Et pourquoi pour changer de. Pour changer en fait, pour
varier. Oui, c'est ça, pour changer, mais pas complètement. Ouais. Et alors après, on y arrive peut-être avec les cépages, en disant c'est le même cépage, ils sont à quelques kilomètres et c'est travaillé différemment. Parce qu'après, c'est la maîtrise du vigneron sur la vinification, ça sera ça tout l'intérêt. Et eux, ils vont s'approcher voilà, comme un cinéaste qui fait 20, 25 films ou 40. Et puis petit à petit, ça va se préciser. On voit les premiers films, on voit les derniers. Et c'est incroyable, avec les mêmes thèmes. Mais c'est incroyable les changements. Et pour les années des vignerons, les millésimes, ben, on voit l'évolution. Et si on connaît un vigneron depuis 20 ou 30 ans, on repense à ses premiers vins et on repense à ses vins de maintenant qui se sont énormément précisés. Parce qu'eux, ils ont appris avec l'expérience, et puis ils ont appris tout, enfin comme on fait tous, on apprend tous les jours de tout.
Mais c'est quand même bizarre de réclamer ça, parce qu'on sait bien ce qui se passe dans une bouteille à chaque fois unique.
Oui, pour nous, ça paraît maintenant évident. Moi, je dis pas qu'il y a 30 ans, ça me paraissait évident. Hein. J'achetais un vin...
Comme une boîte de petits pois, que tu exigerais l'identique, en fait.
Puis, si j'aimais bien, ben, je rachetais le même. J'essayais aussi les prix, je regardais beaucoup les prix. Là, c'est déjà aussi une gamme un petit peu supérieure, c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de travail et beaucoup plus de stress, mais...
Et puis, il y a beaucoup plus de cases aussi, enfin, par rapport à... Moi, je suis parisienne et il y en a beaucoup plus, donc je pense qu'il y a une démocratie. Moi, je sais qu'étudiante, avec les copines, on achetait toujours le même vin, c'est le Roche-Mazet. Enfin, quoi qu'il arrive, on achetait le Roche-Mazet parce qu'on n'avait jamais été déçus et qu'il plaisait à tout le monde, quoi. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ça serait bizarre de boire du Roche-Mazet. Mais par rapport à ce que tu dis aussi de la vinification et tout ça, la VHS, ce qui m'a touchée, c'est que la VHS, ça vieillit. C'est-à-dire que c'est comme, bon, il y a le film, la bande magnétique vieillit, et donc le film peut changer. Alors que le numérique, on peut pas le lire. C'est-à-dire que quand il est vérolé ou fini, le fichier ne se lira pas. Et donc je pense qu'il y a un truc aussi un peu organique qui doit te parler.
Exactement, ça se rapproche vraiment des films aussi, on a l'impression vraiment qu'il y a une matière, il y a une bobine qui tourne, donc forcément elle va évoluer par rapport à le numérique, ça j'ai pas du tout, et j'ai des DVD, truc de fou, mais j'en ai très très peu évidemment.
Et ce serait quoi un vin numérique ?
Ah ben ça serait les vins conventionnels, enfin les vins avec, je pense qu'il y aurait peut-être... Si j'exagère un peu, il y aurait peut-être une grappe de raisin par bouteille. Non, j'exagère évidemment, mais non, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de traficotage. C'est-à-dire que le vin ne va pas du tout évoluer. Hein. Qu'on le goûte en 2020, en 2030, il sera pareil. Et puis, il y aura du sucre, des colorants, des produits chimiques.
Mais est-ce qu'on arrivera à faire un goût parfait quand même ? Mais peut-être
en fait,
mauvais pour la santé. Mais...
Parfait, oui. Enfin, en fait, c'est les... quand un vin plaît, enfin avant, enfin ça existe encore d'ailleurs toujours, et ben en fait l'idée c'est il y aura pas l'effet millésime, il y aura pas, il y a plus d'eau, plus de soleil, plus de neige, enfin il y aura, on veut le même vin tous les ans, donc ça veut dire que le même goût, tout pareil, donc on va faire l'inverse en fait, on va pas laisser vivre du tout les raisins, enfin on va les laisser vivre, mais après on va faire tout pour qu'ils rentrent dans le même
dans la case.
Exactement, dans la même case que l'année dernière. Donc en fait, c'est très troublant parce qu'on peut goûter un vin tous les ans et il sera tous les ans pareil. Alors que pour les vins en biodynamie ou nature, c'est l'inverse. Toutes les années seront complètement différentes, d'autant plus depuis 2000. Enfin, depuis 10 ans, j'imagine, les vignerons diront, j'imagine, beaucoup, depuis beaucoup plus longtemps, mais là, les années sont, enfin, les changements, le changement climatique, c'est énorme. Là, les vendanges pour 2020 ont commencé vers le 20 août pour certaines régions, ce qui est improbable. Il y avait du mildiou dans le sud, ce qui est improbable. Enfin, tout est inversé, en fait. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus de... Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'expérience maintenant pour avoir des vins qui s'en sortent. Enfin, les vins s'en sortent, je veux dire, mais... L'eau tombe n'importe quand. Enfin, avant, il y avait des saisons. Il y en a toujours, mais qui ne sont plus du tout comme on a connu avec beaucoup d'eau. On ne s'y attend pas. Il fait très froid jusqu'à mars-avril. Il fait très chaud. Il y a... Voilà. C'est... Ouais.
C'est un peu trop radical, quoi.
Hein ?
C'est un peu trop radical et un peu trop drastique. C'est...
Ouais, enfin, on sait plus du tout comment. Ouais, enfin, c'est compliqué à gérer en fait. C'est beaucoup de stress pour les vignerons.
Et ils vont inventer des façons de réguler ou de.
Oh ben ouais. Non, c'est la nature. C'est ça. Eux, ils vont pas inventer. Ils vont écouter la nature
et s'adapter plutôt.
Exactement. Ah oui,
et comprendre
exactement. Voilà, comment faire pour le mieux. Attendre un peu, récolter maintenant. Ouais. Non, c'est l'inverse. Ils vont écouter la nature. Ils vont écouter ce que donnent les vignes. Et puis s'il faut les soulager, là ils ont déjà préparé des bougies en amont pour le gel, ce qui est la première fois.
Ils chauffent à la bougie ?
Ben ouais, c'était à l'ancienne.
Ouais, raconte
et
un peu.
Ben en fait, si jamais, maintenant on peut savoir le temps un peu avant, enfin si jamais ils gèlent en l'occurrence, donc ils se sont fait surprendre, je pense, depuis 2-3 ans. Alors après, ça dépend des régions, ça dépend des vignerons. Puis des fois, c'est très parcellaire, c'est très ciblé. Et les bougies, on ne peut pas les trouver. Alors, c'est quand même des bougies qui s'adaptent à la terre, à côté des vignes. Enfin, ce n'est pas des bougies...
Des bougies blanches.
Mais ça s'appelle comme ça. Hein. Enfin, ouais. Ça pourrait se rapprocher de ça, parce que je pense qu'il y a des vignerons qu'on fait comme ça. Et donc, ils vont... mettre autour, le long des vignes, des bougies.
Des rampes.
Et si jamais il y a besoin, ils vont venir les allumer la nuit pour éviter le gel. Voilà, pour que ça réchauffe les vignes. Et ils se sont fait attraper une fois ou deux. Et en fait, c'était trop tard pour installer. Le gel est passé et ils peuvent perdre jusqu'à 80% de leur récolte. Enfin, c'est déjà arrivé, quoi. Puis après, il y a la grêle. Après, il y a plein de choses.
Est-ce que tu expliquerais pour ça que... Ben, moi, je suis très sensible au Jura. Donc, j'ai l'impression, en écoutant là, sur Inter, les gerbelles, on va déguster. Enfin, ils parlent énormément du Jura. Et qui est une région de montagne, qui a un climat dur. Il fait très froid l'hiver. Et ça se sent dans le vin que c'est un vin qui a résisté. Enfin, moi, je suis toujours un peu émue par ce vin parce que... On sent que le raisin, il a quand même, il s'est débattu pour exister quand même. Et donc, est-ce qu'ils survivent bien à ces
climat ? Ben, ils ont galéré. Ils ont
galéré.
Il y a des vignerons qui ont perdu énormément. Après, oui, ils sont sans doute plus prêts à ça. Mais il y a des fois, malheureusement, je pense qu'aucune région ne sera épargnée si jamais, si jamais on n'est pas prêt ou quoi. Alors, ils sont peut-être prêts plus pour le gel, peut-être, et puis peut-être moins pour l'eau. Je sais plus le Jura. Mais il y a des vignerons qui ont perdu 80% de récolte.
Oui, ça se joue pas entre les côtes du Rhône ou le plus haut.
Non, c'est ça qui est surprenant en fait. Hein. C'est quand le Roussillon a manqué d'eau, c'était complètement incroyable. Quand la Bourgogne a eu trop de soleil, enfin, on va donner des gros exemples. Hein. Je pense pas que ça soit aussi. Mais c'est quand même incroyable, pour certaines régions. Ouais.
Ok. Et tu nous donnes l'adresse, on est où ?
On est au 136 rue Amelot, à côté du Cirque d'hiver, on va dire.
Et en fait, il faut remonter un peu la rue Jean-Pierre Timbaud.
Oui, alors au niveau de la rue Jean-Pierre Timbaud, ça fait le 5, donc ça veut dire peut-être redescendre ou remonter, on ne sait pas. On est vers République, en tout cas, côté République pour la rue Jean-Pierre Timbaud.
Ok, on s'arrête là.
Parfait.
Merci Mireille.
Merci.
Vous venez d'écouter le message buissonnier d'Émilie Coqui, collaboratrice Camille Chibaï à la Cinémathèque française. Nous la remercions. Nous remercions également Mireille de s'être prêtée à notre jeu et espérons qu'elle appréciera Klaus Kinski en Jack l'Éventreur. Si ce que Émilie a dit vous a intéressé, n'hésitez pas à aller sur Henri, la plateforme VOD de la Cinémathèque française dont elle pilote la programmation. Si cette pastille vous a donné soif, n'hésitez pas à rendre visite à Mireille pour lui acheter une, voire plusieurs bouteilles. On remercie comme toujours Gabriel Régnier et Anna Mandico pour la musique et les illustrations créées pour nos émissions. N'hésitez pas à partager cette petite pastille si elle vous a fait du bien, si elle vous a intéressé, ou tout simplement si elle vous a fait découvrir de nouveaux films. À la prochaine !